Chers auditeurs de Radio Canu, il est l'heure de retrouver Bistan Brouille. L'écoute.
Bistan. Je suis une voix. Je suis un message. Je suis un représentant à domicile. Je m'insinue chez vous. Je vous fais réfléchir. Je déclenche chez vous l'intérêt ou bien la sympathie.
Ici, non.
Car je suis, quand j'arrive, le messager mystérieux.
Les Français parlent aux Français.
Ici Radio Canu. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les choux-fleurs mangent de sel. La voisine aime les macroutes. Le bambo est détendu. Bistan brouille l'écoute tous les matins sur Radio Canu. Il fait les nouilles au sécateur. La tante est dépitée. Gégé a des gaz, je répète.
J'ai plus de voix.
La tante je répète. Les chocopops sont périmés.
Don
Charles viendra demain. Le plus dur reste à faire. Bistan brouille l'écoute.
Hein?
Bistan brouille l'écoute.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Canu pour l'émission la plus réveillée de la semaine, puisque ce sera bien sûr c'est malheureusement déjà la dernière édition de Bistan brouille l'écoute sur Radio Canu sur le 102.2. Une dernière émission qui sera pleine d'entrain, pleine de sujets, puisque on a eu un sommeil réparateur globalement dans l'équipe, hein, au moins 3 heures de sommeil chacun, donc ce qui est une performance quand même dans une équipe qui travaille la nuit, le jour, qui travaille en 3-8. Aujourd'hui sur Radio Canu pour Bistan brouille l'écoute. Et pour finir en beauté, nous avons pléthore de ce que la radio peut compter parmi les invités les plus prestigieux. Nous avons bien sûr Olivier Chope qui nous a rejoint aujourd'hui, qui était donc dont on se souvient des éphémérides il y a 2 jours sur cette même antenne.
C'était hier.
Ouais. Alors là, vraiment,
les journées sont vraiment trop longues.
Ce sont les nuits qui sont coupées en plusieurs morceaux, et alors on croit avoir vécu plusieurs jours. Donc c'était hier, effectivement, les éphémérides. Par contre, tu nous avais rejoint avant-hier soir sur la bouffe à Bistan, bouffe italienne à l'autre côté du pont, qui avait été matière à faire un sujet que tu vas nous présenter aujourd'hui.
Ouais, tout à l'heure on écoutera un petit Radio Cuisine. Ouais.
Voilà, c'est ce qui manque un petit peu sur Radio Canu. On avait imaginé à un moment donné monter un crème et champignons ou un crème et châtiment, pardon. Et là voilà, ça peut être une avant-première pas mal. Alors, venu tout droit de Paris sur son scooter, sur son vieux scooter, on a cru qu'il s'était peut-être emmêlé dans une chaussette ce matin, mais non, il est là, ponctuel, il est là, juste à la fin du générique. Alors, on l'a retrouvé pendant toute la semaine grâce aux merveilles de la technologie qui nous ont permis de l'entendre depuis Paris par le téléphone. C'est le colonel Moutarde, directement en vrai cette fois-ci dans les studios. Et voilà, toute la semaine, il nous a présenté les sujets réalisés par Radio Canu, la radio temporaire du Festival de la Pierre Bleue. Et là, il est là en vrai pour nous parler un petit peu radio.
Bonjour.
Bonjour, colonel.
Frais du matin.
Il va me falloir une petite minute pour
Je vois que vous êtes équipé du jus d'orange, et je crois que c'est une bonne idée. Pas trop en abuser le matin parce que l'estomac... Voilà, alors on accueillera aussi Martin Duret. Alors Martin Duret, comme il le dit lui-même, Martin Duret veille, matin, matin chagrin, matin copain, mais matin sans Martin pour l'instant, mais il ne va pas tarder, c'est sûr. Donc Martin Duret, vous en souvenez, il avait fait la merveilleuse chronique environnement il y a 2 jours sur ces mêmes ondes. Martin, si tu nous entends, parce que je sais que le 102.2 est la fréquence de ton réveil, viens nous rejoindre pour cette émission, donc pour ce grand final. Voilà, et puis on retrouvera évidemment les chroniques habituelles. On va retrouver un documentaire sonore aujourd'hui.
Oui, pourquoi pas, on va pas changer.
Voilà, donc un petit sujet sur les pentes de la Croix-Rousse, vous savez, réalisé par des stagiaires de l'association La Voisine. Oui, puisque l'association La Voisine embauche des stagiaires, c'est une entreprise moderne. Et voilà, ce sont des petits sujets qui avaient été réalisés sur les pentes de la Croix-Rousse, autour du son de la Croix-Rousse. Et c'est avec ça qu'on va commencer ?
On va commencer par un petit Mazalda et ensuite on va enchaîner, je pense, sur l'imaginaire sonore qui aujourd'hui aura été fait à Vénissieux et non pas à la Croix-Rousse.
Et aujourd'hui, ce sera à Vénissieux. Voilà. Oh, et le temps de vous présenter d'ailleurs Eric aux commandes.
Aux commandes, et ben commandons. La Giuino Rizona, terra di fuoche di chimere, c'è una chitarra buona.
Piacere nell'oscurità, ognuno un po' godere, son baci di passione, l'amor non sa tacere, in quelle la canzone, le mille capinere. L'amor non sa tacere, per qual è la canzone da mille capinere.
Je crois qu'elle est morte. nous entourons, il y a personne.
Alors quand elle me voit, elle commence à faire bravo. Et alors, elle me regarde, elle fait, elle bouge ses mains. Je comprends que c'est pour que je lui chante. Parce qu'elle ne parle pas, mais elle comprend tout. Alors je lui chante ainsi. Font les petites marionnettes, ainsi font trois petits tours et puis s'en vont.
Le bruit que...
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit, c'est quand c'est les nuits métisses. Alors là, je m'en vais.
Les chinois, ton ormel. Les nuits, c'est quoi?
J'ai la sciatique, rien que d'aller chercher mon frère.
Piston brûle l'écoute.
Et voilà, c'était donc un imaginaire sonore. Et nous nous retrouvons à nouveau avec donc Olivier Schopp et le colonel Moutarde. Parce que, non, Olivier Schopp, Olivier ou Schopp, ou je sais pas, Bertrand.
Ouais, Bertrand aujourd'hui, Bertrand. Ouais, ça peut être pas mal.
Voilà, donc on a ce grand bonheur d'accueillir Bertrand et le colonel Moutarde, parce que si tous deux donc faisaient une chronique différente sur Bistan Brouille l'écoute, donc tous les matins là cette semaine sur Radio Canu, il se trouve que tous les deux faisaient partie de ce magnifique projet de radio temporaire qui était la radio Potu, qui a été montée donc à l'occasion du festival Les Nuits de la Pierre Bleue. Alors nos deux invités aujourd'hui sont d'autant plus courageux qu'ils ont participé à ce qu'il est coutume d'appeler le chantier de l'Annonciade, qui s'est déroulé donc apparemment hier soir. Je n'étais pas présent, mais apparemment c'était
une fête.
Une fête. Voilà, et donc toujours vaillant, le colonel Moutarde et sa légion de chroniqueurs, et il y a légion, sont au rendez-vous ce matin. Et on va peut-être commencer avec toi, Olivier, puisque Olivier Bertrand. Donc on va commencer avec toi, Bertrand Olivier, peut-être pour que tu nous présentes, avant qu'on rentre un petit peu plus dans les détails sur Radio Petit, peut-être tout à l'heure après le sujet, que tu nous présentes le sujet là, que tu as réalisé donc, dans le cadre de la bouffe à Bistan.
Bah voilà, c'était mercredi soir, de l'autre côté du pont, il y avait une bouffe, et du coup j'étais là avec mon micro dans la cuisine pour reprendre le son de la bouffe et retranscrire un peu l'ambiance de cette soirée cuisine.
Et donc c'était une cuisine animée et une...
Voilà, on va entendre que c'est une cuisine où on chante, c'est une cuisine où on parle.
Ça fait plaisir que tu le dises, parce que...
Il y a plein de trucs.
T'es pas sûr qu'on reconnaisse.
Voilà, non mais on a hésité à faire le spectacle dans la cuisine et je trouve que c'est bien qu'il y ait eu un témoin à ce moment-là quand même.
J'étais un spectateur privilégié.
Voilà, donc en gros, bon, on a la crème de Radio Canu... Qui est venu à cette soirée bien sympathique. Bon, il y aurait pu avoir un petit peu plus de repas servi peut-être. Voilà, mais enfin, en tout cas, on va écouter ce sujet peut-être, et puis on parlera un peu plus après donc de cette manière de faire. Pourquoi faire la radio, les sujets, et puis qu'est-ce que ça veut dire monter une radio temporaire à un moment donné, et puis parler peut-être plus précisément de l'exemple de Radio Potu.
Si ça vous dit.
Allez.
Dans la boue, dans la boue.
Out.
Martin, réveille-toi.
Dans la boue, dans la boue.
Donc voilà, il est maintenant 17h25, nous sommes de l'autre côté du pont pour cette fameuse bouffe à Bistanclac, et je suis content, j'ai trouvé quelqu'un qui est là aussi à attendre Bistanclac. Il t'avait donné rendez-vous à quelle heure, toi ?
À 3h à la base, mais bon, ils m'ont rappelé pour me dire 5h moins quart.
Et là, il est donc... Ah, ça fait bientôt une heure que tu les attends ici ?
Ouais, voilà, à peu près, hein, c'est ça.
Bon, j'espère qu'on aura à manger ce soir, en tout cas. Toi, tu viens pour préparer aussi ?
Ouais, pour les aider à préparer à manger.
Est-ce que tu peux nous dévoiler déjà un peu le menu, tu sais ou...
Je sais qu'il y aura de la mozzarella fraîche remontée par les Italiens, et il y a des pâtes, à mon avis. Voilà, j'en sais pas plus.
Merci, Ariella. Ariella, qui est une des personnes qui s'active ce soir dans la cuisine du bar-restaurant de l'autre côté du pont, pour une soirée dans le cadre de la semaine La Voisine Pousse les Murs. La Voisine, c'est l'association de Bistan Clac. Et justement, Eric de Bistan nous en dit un petit peu plus, car ils sont enfin arrivés dans la cuisine de l'autre côté du pont.
L'autre côté du pont, eh ben écoute, avec Bistan Clac, on s'est dit on fait des concerts. On s'est mis à faire des balles
s'est dit pourquoi on ferait pas à manger. Du coup, on a dit on va faire, après le bal à Bistan, la bouffe à Bistan. Comme il y a les copains qui venaient de Naples, ben on s'est dit, tiens, on a le thème. Quoi. Il ne manquait plus qu'à faire le menu et on vient de l'improviser. Du coup, voilà, un petit, sous les conseils de Valentina et des recettes que tient sa maman, ben on va tenter quelque chose ce soir.
Alors, vous faites à manger et après le concept, c'est vous vendez la bouffe ou c'est juste pour une bande de potes ou quoi ou...
Eh ben c'est comme, c'est pas un spectacle, mais c'est une bouffe. Donc du coup on va vendre les repas. On va pas marger énorme, enfin, déjà qu'on aura payé la mozzarella qui est arrivée ce matin, ça sera déjà pas mal. Et si avec un peu de chance on fait un petit peu de bénéfice, ça servira à éponger un petit peu du trou du festival de la Pierre Bleue qui a eu quelques soucis financiers cette année. Donc voilà, c'est aussi le sens de cette semaine qu'on organise avec la voisine, c'est que de dire que si on peut faire 2-3 sous en faisant des soirées sur Lyon, ça permettra de faire que l'assaut dépose pas le bilan la semaine prochaine. Voilà.
Ouais, vas-y, continue, hein. je vais encore vous retarder déjà que vous n'avez pas l'air bien en avance. Hein.
Ça sera prêt à l'heure.
Jérôme, tu nous fais une petite description de ta cuisine.
Alors, écoute, elle fait à peu près 4,50 m de long sur 1,50 m de large. Tu enlèves 1 mètre sur la largeur au niveau des éléments, donc il reste 50 cm de passage. Là, nous avons une brochette de voisine. De genre sexué masculin et féminin, c'est pas parce que c'est des voisines qu'ils sont unisexes. Et ils sont au nombre de, j'ai du mal à compter, 6 plus un teneur de micro, ça fait 7, plus un salarié de l'autre côté du pont qui vient essayer désespérément de faire des tapas, ça fait 8 personnes. On va battre un record, contresens, ça avait fait pire, mais en colonisant la salle, donc c'est pas mal, c'est pas mal.
C'est quoi ce concept de restaurant où tu peux venir faire ta cuisine?
C'est le bordel. Moi j'ai une soyeuse qui m'attend, je vais boire une goutte.
Bonne soyeuse.
Ça y est, je commence à chialer là.
Je chiale pas, il est
trop.
Il sort, ça va être
maman.
Bon, Valentina, on m'a dit que c'était toi qui avait établi le menu de ce soir.
Non, c'est eux, mais j'ai organisé un peu parce qu'ils n'avaient pas trop d'idées.
C'est quoi alors le menu?
C'est de la caprese, salade de caprese s'appelle, avec de la mozzarella et des tomates. La mozzarella qu'on a amené de Naples hier. Et après, des pâtes aux pois chiches. On dit comme ça. Et... dernier, c'est melanzane à funghetti, c'est des aubergines avec de la tomate frite.
Une technique particulière dans la friture ou dans la manière de préparer ce repas?
Faire attention aux aubergines parce qu'il faut les mettre dans l'huile très bouillante, sinon elles deviennent amères. Et après, dans le même huile, tu fais les tomates et tu mets tout ensemble. Ça, c'est la seule chose. La pâte au pois chiche, c'est un peu plus difficile. Et il faut faire un bouillon à l'avance et utiliser des carottes, des oignons, couper très très fines et les faire frites. Frire dans l'huile et après tu mets les pois chiches, les pâtes sans l'eau, ouais, et après tu mets peu à peu le bouillon et tu fais cuire les pâtes dans le bouillon.
Ah, tu rajoutes le bouillon sur les pâtes en fait.
Ouais. C'est ça.
Yep.
Ça c'est le repas pendant la semaine. Le dimanche, ouais.
Le repas traditionnel à Naples.
Ouais, on mange ça normalement le mardi et le jeudi. C'est vrai.
Spécialement le mardi et le jeudi.
Parce que la semaine des femmes napolitaines était très régulière. Donc le lundi, on mangeait ce que était en plus ouais, de dimanche. Le mardi et le jeudi, on préparait les légumes. Le mercredi, de la sauce tomate et la viande. Et le vendredi, poisson. samedi, c'était un peu à chaque famille.
Tu parles au passé, du coup, c'est fini cette époque. Ouais, ouais.
Maintenant, on mange n'importe quoi.
Non, c'est McDo tous les jours.
Non, il fonctionne pas trop à Naples, McDonald's. Ouais. Parce qu'il y a la pizza qui coûte vraiment très très peu. C'est pas cher. Une pizza, c'est 3 euros et tu vraiment manges beaucoup. Donc, les enfants, ouais, ils aiment McDonald's, mais quand ils deviennent adolescents, ils ont peu d'argent et ils vont manger la pizza. Mais je voudrais dire une chose à tout le monde français. Les femmes napolitaines ne font pas seulement la bouffe.
Et les hommes napolitains font la bouffe aussi.
Ouais. Non. Donc ça c'est pas le Moyen Âge.
So pizza e casa, o so pizza galera, a rosa e giusa la mattina sera. Gio purgatorio e tutta questa gente che vive in te barranche vive niente.
Vas-y Renaud, explique-moi ce que tu fais en fait. J'ai eu la recette tout à l'heure, on m'a pas parlé des poires.
Ah si, les poires, c'est le dessert.
Donc t'es plus des poires.
On avait des tartes aux poires, mais on n'avait pas le temps. Et puis finalement on va faire quelque chose qui est assez napolitain finalement. Des poires cuites avec des raisins secs et des amandes effilées. Alors j'ai les doigts pleins de poires, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Il y a des trucs des fois qu'on aime pas. Moi il y a un truc que j'aime vraiment pas du tout, c'est laver la salade. Ça c'est vraiment le truc que j'aime pas du tout faire. Et maintenant je sais qu'il y a aussi éplucher les poires, surtout quand elles sont très juteuses, comme ça, voilà, être les mains dans le jus, l'économe qui s'enlise dans la poire molle. Ça met du temps, ça en met partout. C'est pas une sensation agréable. Mais en même temps je me dis que si elles sont juteuses, elles seront d'autant meilleures à la cuisson, à cuire.
Donc je demandais, vous avez prévu à bouffer pour combien de personnes?
Alors pour 50 personnes, on espère simplement que ça serait quand même dommage que 50 personnes n'en profitent pas. Donc on espère qu'il y aura bien 50 personnes. Bon, déjà nous on est quelques-uns quand même, donc on va déjà. Ça serait con quand même qu'on se prive.
Alors voilà, 50 personnes attendues pour cette bouffe à Bistan dans le bar de l'autre côté du pont. Mais la plupart des gens qui sont là, bah, ils sont au bar, ils sont en train de boire et de discuter comme ils le font régulièrement. Ils sont pas forcément au courant qu'il y a une bouffe, donc il va falloir les prévenir qu'il va y avoir du mouvement, qu'on va bouger un petit peu les tables et pourquoi pas les convaincre de manger cette fameuse bouffe à Bistan. Et c'est Eric qui se donne cette mission.
Ouais, on va voir Oslo Télescopique d'Exiex à l'épicerie ce soir. On sera là demain, je crois.
Ok. Est-ce que je peux vous demander quand même à vous qu'on déplace la table? Parce qu'en fait, on va faire un jeu, c'est qu'on va partir de là, on va tourner la table, et en fait, on va mettre coller toutes les tables pour une grande tablée.
En fait, tu nous mets dehors.
Ah non, vous restez à table.
Non, on va s'en aller. Ah
non,
là,
mais partez pas.
Ah bah si, mais si, on s'en va.
Parce qu'on mange pas avant, dans longtemps, mais tu vois, il faut que l'espace se mette en place.
Non, écoutez, je trouve ça inadmissible. Non, mais y a pas de soucis.
Ouais, comment tu veux faire alors?
Eh ben, on vend l'assiette. Enfin, on vend l'assiette.
Ah oui, d'accord, c'est ça.
Et comme
ça.
Tu vas ramener chez nous après, avec des dédicaces.
On loue l'emplacement dans lequel vous allez poser votre nourriture.
Ok, c'est super.
Voilà, je vous en donne chacun.
Exceptionnel. Préparons un repas italo-lyonnais ici, à l'autre côté du pont. Et donc, si
c'est
ça
pas
vous
toi
dit, voilà, on est en train de préparer quelque chose. On s'est dit que les échanges uniquement capitalistes au niveau européen, ça nous plaisait moyennement. Donc, on organise des rencontres plutôt musicales et culinaires. Donc, demain, ça sera musical au même endroit, avec des amis napolitains qui sont venus et avec qui on prépare un spectacle de chansons. Et ce soir, c'est repas. Donc avec la mozzarella comme vous n'en avez jamais mangé puisqu'elle vient directement de Naples, toute fraîche, délicieuse. Et puis ensuite pas mal des pâtes, un petit dessert. Enfin voilà, un petit repas, c'est 8 euros. Donc si ça vous dit, on prend les inscriptions et on va essayer de faire une grande tablée avec toutes les personnes qui ont envie de manger.
Voilà.
Merci.
Bon, on en est où là, Valentina?
On est presque prêt.
Beaucoup d'aubergines, non?
Beaucoup d'aubergines, à la façon lyonnaise, à la façon napolitaine. un dessert qui on ne sait pas encore où.
C'est quoi la différence alors, la façon lyonnaise, c'est beaucoup d'huile?
Non, là aussi, hein, beaucoup d'huile quand même, non?
C'est on les coupe d'une façon différente, c'est ça? Voilà. Ouais.
C'est juste ça, après ça frit pareil.
Ah, tu vas goûter et tu me diras. Je mets les pâtes. Vous êtes tout d'accord?
Oui, je pense que c'est bon les pâtes. Ouais.
C'est bien.
Bon. C'est des pâtes spéciales ou?
Ouais, c'est des pâtes un peu plus épais.
Que vous avez ramené d'Italie aussi?
Non. Ça, c'est des pâtes lyonnaises. Mais on les achetait chez une femme italienne. Ça peut aller. C'est un peu difficile, hein. Faire les pâtes pour 50 personnes.
La première fois que tu fais des pâtes pour 50 personnes?
Non.
Non.
J'ai la chance que mes copains, ils arrivent tout le temps chez moi.
À 50?
Ouais, quelquefois. Il faut jamais avoir peur.
Et pendant que les pâtes terminent de cuire, pendant que ça mijote, les tables se sont dressées dans la salle et les gens ont pu manger la bouffe italienne, les pâtes, avec la musique du pays.
Les gens ont fini de manger. Qu'est-ce qu'il y a?
Où dois-je emmener?
Je vais t'emmener. Tu veux aller à la vaisselle?
Dove?
Tu veux ramener les assiettes sales?
Ah ouais.
Donc on entre dans le derrière du bar. Voilà, guidé par le son de la vaisselle.
Tadam. Oui. Bonsoir.
Bon Yael, qu'est-ce que t'es en train de faire du coup?
Je suis en train de faire la vaisselle.
Et t'es une fille.
Et je suis une fille.
La voisine en fait est une association sexiste.
Absolument, ça qui... bah attends, mais ça se voit non? Enfin, tu vois, il n'y a qu'à regarder un peu. Qui c'est qui a fait les pâtes? C'est Valentina, une fille. Qui c'est qui a la vaisselle? Une fille. Et les garçons pendant ce temps, voilà, ils mangent quoi.
Les assiettes sont bien sales ou ça va? C'est pas trop chaud? Non, ça a l'air d'aller.
Ben... non, il y en a qui sont quand même bien sales parce que la pasta al ceci, c'est quand même assez compact, assez adhésif, ça veut dire bien aux assiettes, quoi. Donc tu vois, il y en a qui sont assez... Faut les rincer avant de les laver, tu vois, genre...
Ça accroche.
Ça accroche, ouais. Ceci dit, c'est assez agréable de faire la vaisselle, moi j'aime bien. Hein.
Ouais. Même sans musique comme ça, parce que généralement on se motive en mettant du son à fond.
Toi. Ouais, ou en chantant. Ouais. Non, mais même sans musique.
Vas-y, ou chante sinon.
Hein?
Tu peux chanter sinon.
Putain, j'ai chanté toute l'après-midi, ça va suffire. Là, je suis venue trouver un petit peu de calme en fait ici.
Là, t'es en train de dire que je te fais chier.
Non, je voulais pas le dire comme ça, mais non.
Et de la plonge, on revient dans la cuisine. Et en fait, tout repose sur les deux sœurs, Ariella et Yael, puisque Yael est à la vaisselle et c'est Ariella qui. Tu fais du rab en fait?
Je fais du rab, ouais, y a des gens qui viennent d'arriver qui n'avaient pas mangé, donc je les sers.
Ok.
C'est le secret de la voisine en fait. C'est l'arme secrète.
Du coup, tu sais combien il y a eu de gens qui ont mangé?
Ouais, entre 25 et 30. Il y avait 25 tout à l'heure, il y en a 3 de plus. Ça fait 28.
Bon, ça va, il y a bien du rab alors.
Ouais, ça va. Ah ouais, surtout en pâte. Là, à mon avis, je sais pas qui c'est qui va l'avoir, mais il y en a pour longtemps. En fait,
je fais pas seul. Alors, c'était bon?
C'était bon, mais un peu lourd.
Un peu lourd?
Les pois chiches avec les pâtes, avec de la farine, ça pèse. On va peut-être pas parler des pois chiches maintenant tout de suite.
Ouais, ben pain, pois chiches, maïzena, pâte. Voilà.
C'était succulent. Mais il faut pas en manger beaucoup.
Non, c'est la maïzena.
Fallait pas, ouais. Fallait pas. C'est bien, ça a bien commencé. Ça a bien commencé.
Pas la maïzena,
voilà. Tomate mozzarella, nickel.
Ah, la mozzarella quand même.
La mozzarella, d'accord, pas de problème. Mais sinon le reste, voilà. C'est pas possible de finir, quoi.
Et l'ambiance sinon?
Ah bah l'ambiance, on vient avec des potes. Et on vient voir des potes. Y a pas de problème. Ah ouais, c'est cool, y a aucun souci.
Moi je suis très triste parce que j'ai raté la mozzarella en fait. Et ça me fait... ça m'a fait quelque chose quand même. Mais bon... non, sinon, très bien, très bien. Bon, les pois chiches avec les pâtes, personnellement, j'y aurais pas pensé. Accompagné d'un peu de pain, c'était magnifique, ça m'a très bien calé.
C'est un plat traditionnel, hein, je crois.
Oui, pareil, oui, aussi, mais... Oui, non, mais c'est très bien passé. Non, moi...
T'es pas napolitain, quoi.
Non, je crois que je suis pas napolitain, je suis un peu nordiste, mais bon. Il y avait un peu du nord, quand même, dans tout ça. C'était très bien.
On ne reviendra plus dans ce restaurant.
Le restaurant des Bistans ou le restaurant...
La maïzena, c'est la maïzena. Tout est dans la maïzena. Ah non, mais... Non, mais si j'avais su, j'aurais coupé le gaz pour de vrai ce matin. Attends. Non, mais parce qu'il faut savoir que les pois chiches ont été cuits avec mon gaz.
Avec ton gaz personnel? Corporel?
Oui, personnel. Ah non. Mais ce soir, il pourrait être recuit, je peux te le dire. Là, voilà. Je vais te dire que ce soir, je te l'ai recuit. Putain.
Écoute, au final, la bouffe à Bistan, c'est plutôt transformée en bouffe au Music Antique d'Istrada, quoi. C'est-à-dire que nos copains napolitains ont bien pris les choses en main. On est peut-être un peu déçus, mais ça, c'est qu'il n'y a pas plus de monde qui soit venu pour ça. Donc, on a recruté au sein du bar. Du coup, on a réussi à convertir des gens à l'esprit de la soirée. Moi, on s'attendait peut-être à avoir plus de monde qui vienne tenter l'expérience, quoi. De dire, tiens, des musiciens qui passent en cuisine et qui jouent pas une seule note de musique de toute la soirée. Voilà. Donc, ce qui permettra de faire le contraste avec demain, où on va pas du tout aller en cuisine, faire que de la musique. Et on espère que des gens ont fait les deux soirées et nous aiguille un peu pour avoir rapport à notre avenir professionnel, quoi. Voir si on se lance plutôt dans la restauration ou si on persiste dans le spectacle.
Peut-être les gens pensent que vous êtes meilleur en musique, quoi.
J'espère.
Yes, merci. Quelque chose à rajouter avant que...
Non, je crois avoir menti, tout simplement. J'ai dit pas une seule note de musique et je vois Yael qui s'emparait d'une guitare et Emiliano qui lève le menton un peu vers le ciel. En général, quand il fait ça, c'est qu'il commence à chanter. Voilà.
J'allais enregistrer tout ça.
Bistan brouille l'écoute.
Bistan brouille l'écoute. Et voilà, de retour sur le plateau de Radio Canu après ce sujet, ma foi, fort.
Très drôle.
Édifiant et drôle.
Édifiant. À préciser que sur la bouffe, il y avait plein de gens qui étaient super contents aussi. C'est vrai que quand à l'écoute du truc, on a l'impression que c'était pas forcément très bon. Mais c'était aussi la vanne facile de la fin de soirée sur les pâtes et les pois chiches.
Ouais, ça fait très radio doléance, quoi. D'un coup, tout le monde s'est lâché. Pour dire, alors, enfin, on a l'occasion de le dire. Bah, décidément, les pois chiches, on les fait.
Bon, peut-être faudrait-il imaginer ça à chaque fin de repas.
Mais donc, ça, c'est un plat traditionnel napolitain, les pâtes.
Les pâtes aux pois chiches sont un. Oui, c'est un plat traditionnel napolitain. Moi, personnellement, je trouve ça très bon. Et puis, ça nourrit quand on mange pas de viande, notamment. Mais c'est vrai que les habitudes alimentaires sont parfois dures à faire évoluer aussi, puisque c'est ça.
Puis le Lyonnais est réactionnaire.
Le Lyonnais a quelque chose de réactionnaire, peut-être. Ouais. Enfin, voilà, un chouette sujet donc réalisé par Olivier pour Radio Bistan.
Bertrand.
Bertrand, pardon. Pour Bertrand, pour Radio Bistan. En plus, ça rime. et qui nous permet donc de déraper sur, sur Radio Potu et puis peut-être plus généralement sur la radio grâce à nos, donc nos deux invités, Olivier Bertrand et le colonel Moutarde.
Olivier Bertrand, ça me perturbe.
Donc tous les deux, vous avez fait partie donc, de cette aventure exceptionnelle de cet été qui était la, la, la Radio Potu. La Radio Potu donc, qui, avait été, qui est une radio éphémère qui a été montée pendant le festival des Nuits de la Pierre Bleue. Peut-être avant d'attaquer directement sur, sur la Radio Potu, il pourrait être intéressant bah, de savoir aussi quels sont vos parcours, pourquoi cet intérêt pour la radio peut-être pourquoi la radio et pourquoi pas l'image et puis la radio pourquoi comment vous avez découvert la radio tous les deux voilà peut-être
tu commences.
Ben, moi j'ai découvert la radio parce que ben, quand j'étais petit mes parents écoutaient beaucoup la radio du coup ça m'a donné envie je pense et je jouais avec des cassettes et j'ai fait une première émission à 12 ans sur Tropic FM à Bourg-en-Bresse.
Ah il a bien célèbre Tropic FM
voilà. Et du coup, ouais, la radio, c'est un truc... Enfin, moi, je suis passionné par la radio. Après, t'expliquer pourquoi, j'y ai jamais vraiment réfléchi et j'ai pas cherché à me poser trop de questions. Voilà.
Moi, je crois que... Enfin, bon, moi, c'est un peu différent. Je pourrais pas dire que c'est depuis que je suis tout petit et que j'en rêvais la nuit. Et que... Mais plus, plus récemment, bah, moi, j'aime bien parce que je pense qu'il y a, quelque chose qui a à voir avec... avec le direct, en fait, avec le temps, c'est vraiment un truc qui coule, quoi. La radio, ça déroule au fur et à mesure. Et c'est. Voilà, les gens écoutent qu'une fois, il faut capter leurs attentions, il faut aller chercher l'auditeur par les oreilles. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime assez bien, quoi, l'idée de synchroniser, enfin, d'arriver chez les gens comme ça et de faire du son chez eux et qu'ils soient intéressés par ça. Et puis, je crois que la deuxième chose, c'est le. Espèce de. Tout ce que ça permet, en fait, d'évocation, quoi. C'est un peu l'imaginaire, et je trouve que dans la radio, c'est particulièrement fort, ce truc-là, parce que c'est quelque chose qui mélange différentes formes de sons, donc c'est de la voix, mais c'est aussi de la musique, c'est aussi des bruitages, des reportages, enfin, il y a une forme, je trouve, de format sonore, enfin, il y a beaucoup de formats sonores, et voilà, et chacun a... voilà, ce pouvoir, en fait, de donner à imaginer à la personne qui écoute. Et moi, je trouve ça assez, assez chouette, contrairement à l'image, justement, parce que tu parlais de l'image au départ. Je trouve que la radio donne à voir, et ça, c'est assez agréable.
Et alors, donc, sur ce projet de Radio Potu, mais peut-être plus généralement sur des projets de radio temporaire, alors là, on n'est plus dans l'habitude par rapport à une radio. Justement, on n'est pas sur un rythme habituel comme les auditeurs de Radio Canu ont pu le prendre cette semaine en se branchant tous les matins à 9h sur les ondes de Radio Bistan. On est plutôt sur quelque chose d'exceptionnel, justement, sur des créations comme ça... et puis sur quelque chose qui apparaît et disparaît. Alors quel est l'intérêt de monter une radio temporaire ?
Bah, moi je trouve en tout cas si on compare ça à la musique ou au théâtre, enfin, voilà, y a un théâtre où il y a une salle qui a une programmation régulière sur l'année, qui crée voilà, cette relation d'habitude avec des gens qui viennent régulièrement. Et puis de temps en temps, bah, ils vont créer un espace festival où sur une période plus restreinte, il y a une espèce de condensé en fait, de différents événements. Et pour la radio, je trouve que c'est pareil. La radio... à faire 24 heures sur 24, c'est énormément de temps, c'est énormément de gens. Même ici à Radio Canu, c'est plusieurs dizaines d'animateurs qui s'occupent de cette radio. Et voilà, donc nous, on ne pouvait pas faire ça sur une année. Par contre, se dire que sur une semaine, eh ben, on réussit à quelques-uns à créer des programmes et à alimenter une antenne pendant 3 jours. Là, on a fait 3 jours. Ça, c'est possible. Et voilà, et ça crée un espèce de mini-événement ponctuel, sachant qu'en plus, il déborde, quoi. Il déborde parce qu'on met ensuite... les réalisations sur un site internet, ils débordent parce que on revient invité par Radio Canu dans le cadre de cette émission-là, par exemple, pour en parler, parce que il y a des liens aussi avec FPP à Paris. Enfin, voilà.
Alors justement, aussi... ça, c'est justement le est-ce qu'il y a des ordres de priorité ? Est-ce que par exemple le direct en tant que tel, au moment où la radio est diffusée, est-ce qu'il est largement mis en avant et puis le reste est, comme tu dis, déborde ? Ou est-ce qu'il y a un rapport d'égalité un petit peu avec toutes ces fonctions qui peuvent être celles de l'archivage, qui peuvent être celles d'une continuité sur d'autres médias, des programmes qui ont été créés
C'est plein de choses. Enfin,
est-ce que le fait, le média en direct par rapport à un bassin de population en particulier, et notamment dans le cadre d'une radio temporaire, est la priorité de cette radio temporaire, ou est-ce que tout ça se mélange finalement?
Tout ça se mélange. On s'inscrit dans un territoire parce qu'à un moment on décide de faire une radio à cet endroit-là, d'émettre sur 15 km à la ronde et de pas aller jusqu'à Lyon par exemple. Bon, pour des raisons techniques aussi d'émetteurs, mais on va dire que c'est quand même un choix et qu'en tout cas on l'assume vachement, c'était de dire qu'on se posait sur un territoire. Après, il y a des gens, peu de gens heureusement, parce que sinon là on serait en thérapie de groupe tous ensemble, qui ont émis des doutes en fait, en disant mais finalement à quoi sert la radio Potu? Est-ce que c'est un média qui fait un écho du festival, ou est-ce que c'est une radio de création? Et nous, sans s'être vraiment consultés, enfin, je dis nous, c'est donc le groupe de Radio Potu. Sans qu'on soit consulté, on était d'accord sur le fait que ce soit un ensemble de choses, et c'est un mélange de ça. Bien sûr que ça s'inscrit. Cette radio, elle prend sens au début parce qu'elle est liée au festival, donc elle sera forcément l'écho du festival, ce qui veut dire qu'on enregistre les spectacles, qu'on les rediffuse, qu'on fait des émissions en lien avec le festival, en lien avec la programmation, mais aussi que nous, on a un espace de... Je sais pas, ça fait un peu pompeux, mais disons création radiophonique, où c'est des petits reportages qu'on va faire, c'est des génériques, des jingles, des petites interventions, par-ci, par-là, droite à gauche. Et voilà, et nous, on veut que ce soit tout ça, on veut pas que ce soit... ça se limite à une fonction très précise.
Il y a des fonctions qui vous échappent aussi, j'imagine. C'est-à-dire que
principe, qu'on met un peu tout dedans et que l'idée, c'est juste de le faire ensemble. Donc, pour rappeler, il y a Olivier et nous, mais il y a en plus... Laurent, donc aussi de Radio Canu, Marion et Frédéric. Voilà, on était 5 en tout, plus Philippe aussi, que j'oublie, qui était le 6e larron. Voilà, on était 6 pour faire ça. Et ça s'est vraiment fait tous ensemble. Donc c'était forcément aussi le mélange de plein de choses. On ne représente pas les mêmes univers radio. Les gens font, de ce groupe-là, font plus ou moins de radio et de façon différente. Et du coup, tout ça, ça donne Radio Potu, mais ça ne peut pas se limiter à une fonction.
Et alors donc, puisque c'était une radio qui a été essentiellement réalisée sur le territoire des Monts du Lyonnais, puisque alors bon, là on parle plus précisément de Radio Potu, puisque bon, c'est l'aventure qui nous intéresse aujourd'hui, mais qui peut sans doute être étendue à d'autres formes de radio temporaire menées ici et là. Bon, souvent sont liées à un territoire en particulier, effectivement, comme tu le rappelais, pas très large. Qu'est-ce qui se passe donc quand on décide de faire des sujets sur 20 km carrés, disons, et qu'on débarque comme ça, et puis qu'on décide donc d'occuper une grille par des sujets sur cette région? Comment ça se passe?
Moi, ce que je trouve rigolo, c'est que du coup on va chercher l'extraordinaire dans l'ordinaire, qu'en fait on n'est pas à se dire tiens, on balaye tout un territoire et on veut inviter les plus grands, les plus intelligents, les plus connus sur notre radio. Mais du coup, c'est les gens qui sont à côté de nous et qui ont aussi chacun à leur manière un caractère exceptionnel. Donc nous, on a fait des rencontres par exemple avec un certain nombre d'agriculteurs des Monts du Lyonnais qui accueillaient le festival. Et voilà, et à chaque fois, c'était un moment passé avec eux, un portrait, et ils nous expliquaient leur vie, la façon de faire de l'agriculture. Voilà, et tout ça, c'était des trucs qui déjà, en soi, sont exceptionnels, même si ils ne sont pas les seuls à faire ça. Leur façon de le raconter, le moment passé avec eux, dans leur ferme, à visiter la ferme et tout ça, ça, c'est unique. Et ça, c'était... Enfin, moi, je trouvais ça assez bien.
C'est une démarche qui se comprend naturellement aujourd'hui, le fait qu'on puisse porter de l'intérêt comme ça à chacun, qu'on ait tous quelque chose à raconter sur quoi que ce soit. Et...
Ça se comprend naturellement. En même temps, je pense que c'est pas une évidence, parce que sur ce qu'on appelle communément les médias bourgeois, c'est rare quand même de donner la parole justement à l'ordinaire. C'est souvent, on vient chercher le scoop, on vient chercher l'actualité. Aucun chanteur, aucun réalisateur n'est invité dans une émission s'il n'a pas une actualité. Donc il faut avoir quelque chose de spécial à dire en ce moment. Dire, moi, je sors un film,
nouveau fromage de chèvre. Voilà.
Et que là, les paysans, on n'allait pas les voir pour le nouveau fromage qu'ils avaient inventé. Voilà, on allait les voir pour qu'ils nous racontent leur vie.
Quoi que tu dis ça, en même temps, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on arrive, pour le meilleur d'ailleurs, et souvent aussi pour le pire, à un peu cette idée permanente de l'interactivité, où sur les radios bourgeoises mais publiques notamment, on a beaucoup de sujets qui sont faits, ou en tout cas d'auditeurs à qui on donne de plus en plus de place pour faire les radios à la place Quel regard tu portes là-dessus?
Est-ce que c'est pas le même rapport, parce que nous, on était justement, on était dans les monts du Lyonnais, on a habité là-bas pendant donc le temps du festival, on allait rencontrer les gens et voilà, on était.
C'est pas du Jean-Pierre Pernaut, tu veux dire?
Ben surtout, c'est pas Paris qui va voir sa campagne, quoi. Il y a pas ce regard amusé, un peu charmé, puis à dire, dis donc, les autochtones, ils sont sympas, quoi. C'était plus, on allait rencontrer les gens qui habitaient à côté de là où on habitait, nous, à ce moment-là. Et que ça, en plus, on l'avait un peu préparé, qu'on est déjà venu dans cet endroit-là. C'est quand même pas très loin de Lyon. Enfin, on sent moins... Enfin, on va pas aux euros, quoi. On n'allait pas...
Alors, je reviens un petit peu sur cette question, mais par rapport aux gens interrogés, est-ce qu'il y a des gens qui comprenaient pas du tout que vous alliez les voir ou qui étaient... Ils étaient étonnés que vous intéressiez à ce qui...
Ouais, bah, ils étaient tous étonnés. Ils étaient tous étonnés, mais après, ils se prenaient au jeu.
Ils vous ont écouté ?
Alors, on n'a pas de retour direct, c'est vrai, d'ailleurs. Il y en avait quelques-uns sur le festival, des gens qui nous disaient « Ah tiens, j'ai écouté l'autre fois, tout ça ». Mais on n'a pas eu plus de retour que ça. Mais ça, c'est un peu le risque aussi avec ce genre de radio très ponctuel, où voilà, on n'a pas le temps de créer une habitude d'écoute avec les gens, donc... Voilà, et puis on a
le,
pas
boulanger, le boulanger du village de Bruyol était,
le boulanger était très content. Voilà,
sinon des retours mais... plus généraux de la part des...
Bah, d'un peu, ouais, du coup, d'un peu de, des gens du festival aussi. Je pense que ça servait aussi de dynamique sur le festival par rapport à l'équipe des gens qui travaillaient dessus. Ça fait aussi voilà, que la radio elle est branchée du soir au matin, que ceux qui font la cuisine ils écoutent la radio, que quand on va en voiture pour aller dans un lieu, bah, on écoute la radio. Et voilà, et puis c'est ce qui accompagne aussi toute...
Cette forme spectaculaire aussi de la radio qui physiquement se déplace. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les reporters discrets qui arrivent en train et qui ensuite se font amener avec leur... Non, là, on débarque en estafette. Si possible, on explose une partie du décor quand on arrive sur les lieux de spectacle.
Bah, si ça dort, voilà. Si, ouais. Si on sent que le public réagit pas, ça klaxonne, on vient provoquer généralement.
C'est-à-dire que c'est tout le contraire de cette idée de l'objectivité, de saisir quelque chose en se faisant discret. C'est tout le contraire. C'est là aussi où il y a quelque chose d'intéressant. C'est que le média devient lui-même... présent à un point où il prend une place spectaculaire quoi lorsqu'il intervient quoi.
Non je présente, oui je rigole parce qu'on a écrasé un peu les bégonias quoi. C'est vrai que nous on est arrivé sur la place du village et voilà on a un peu roulé dans les fleurs, renversé une espèce de tente buvette quoi. Mais bon, non, mais ça, c'est anecdotique, mais oui, en tout cas la radio se faisait voir. Donc la radio avait un camion et pendant toute la dernière journée, par exemple, du festival, le camion s'est posé sur la place du village et on avait trouvé un moyen d'émettre en direct du village. Donc toutes les émissions se passaient sur la place du village et étaient relayées ensuite par la radio. Donc il y avait cette idée ouais, quand même d'aller un peu chercher les gens.
De dire que la radio n'était pas seulement le média, effectivement, que tout à coup, là, elle avait une présence physique aussi matérialisée sur la place du village. Merci beaucoup, colonel. Alors, Olivier, on t'a un petit peu moins entendu aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on était très heureux aussi. Bon, Olivier a été maintenant un habitué de Bistan Brouille l'écoute et c'était très, très chouette de le recevoir pendant cette semaine. C'est vrai qu'on était très content aussi de recevoir le colonel en vrai. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre réveil matinal.
Il embrassa sa femme au front, puis il monta dans son grand carrosse doré et s'enfuit. Il embrassa sa femme.
Il embrassa sa femme au front.
Puis il monta dans son grand carrosse doré et s'enfuit.
Il s'enfuit venir faire sa chronique. Renaud Pierre.
Voilà la donc petite chronique du jour. Fini. Et oui, parce que le spectacle Napoli-Lyonnais hier a duré tardivement. Et puis ce matin, pour finir cette chronique, disons, c'est vrai que les cafés à 8h du matin à Lyon... Enfin, les gens ne veulent plus travailler. Hein.
Bah, ça, on le dit tout le temps. Ça va peut-être changer. Mais...
Je dois avouer que je fais encore partie de cette tribu minoritaire et préhistorique, souvent qualifiée d'intello-hautaine, cette tribu qui n'aime pas le foot. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est une faute de goût énorme que de ne pas aimer le foot, de quelque bord que l'on soit d'ailleurs. On se coupe d'une tradition populaire de solidarité à laquelle tout être normalement constitué a été confronté depuis l'enfance. Et c'est vrai que je ne peux pas m'expliquer comment j'ai pu louper cette étape. Je m'en frappe encore la coulpe d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il ne m'est pas arrivé à une ou deux reprises de taper dans un ballon et d'y prendre du plaisir. C'est-à-dire dans les quelques minutes qui précèdent mon épuisement total. Parce que... Il faut remarquer que la plupart des gens, d'ailleurs, qui ne jouent pas au foot de manière régulière, s'épuisent très rapidement parce qu'au début, on est très, très excité. On part sur le ballon, on se met à l'avant, on court, on fait 2-3 sens de terrain. Et puis, au bout de 10 minutes, on est très, très fatigué. Mais je ne dis pas que je n'ai jamais pris de plaisir à taper dans un ballon qui me fatigue énormément. Je ne dis pas non plus que je n'ai pas pu prendre quelques plaisirs à voir certains matchs dans un contexte particulier, genre un écran placé sur une place de village. Et je suis sûr qu'ainsi, d'ailleurs, en justifiant un peu mon désintérêt pour le foot, mais en disant que finalement j'ai regardé des matchs et que j'ai un petit peu tapé dans le ballon, je vous suis redevenu un petit peu sympathique, non ?
Ah, mais t'es beaucoup plus humain. Ouais.
Voilà, je suis beaucoup plus humain. Il faut dire que pour aimer le foot, je ne suis pas vraiment bien tombé en grandissant dans cette bonne ville de Lyon, puisqu'il représente un concentré de tout ce qu'il peut y avoir de pire, sans avoir ce qu'il peut y avoir de meilleur. Quand j'étais petit, l'OL était une obscure équipe de football, à peine connue jusqu'aux limites du 42, car l'équipe d'alors était sans aucun doute l'ASSE, la mythique équipe de Saint-Étienne, connue aux quatre coins de l'Hexagone, et qui avait tout de même l'humilité de se prêter régulièrement au derby contre l'équipe voisine, abonnée aux défaites. L'OL, c'était à peu près ça, une équipe sans popularité dans sa propre ville et dont on avait connaissance à l'école que par les quelques supporters peu fréquentables qui représentaient leur équipe favorite par un lion portant un casque à pointe. Vous en souvenez, j'en suis sûr. Et puis est venu le temps de la communication et face aux équipes populaires de villes ouvrières, des villes sans foot ont décidé de s'en acheter une. L'OL est désormais... champion de France depuis aussi longtemps que son maire est élu. Et le symbole est ô combien important pour lui, puisqu'évidemment, il n'y a pas véritablement de coïncidence en la matière. L'allocation du stade est bradée. Un affichage de Ville de Lyon à chaque nouvelle victoire proclame « Qui ne saute pas n'est pas lyonnais », vision ô combien profonde de la citoyenneté. Et il faut dire que l'OL a le premier budget des équipes françaises, le double de celle qui la suit immédiatement et n'est pourtant pas vraiment en voie de prolétarisation, à savoir le PSG. Malgré tout ça, l'engouement populaire n'est pas toujours au rendez-vous et lors d'une nouvelle victoire au printemps, la ville est restée étonnamment calme. C'est pourquoi le maire Gérard Collomb a organisé un grand raout le samedi soir qui a suivi la victoire pour dire quand même qu'à Lyon, il n'y avait pas que de l'argent pour l'équipe de foot et que c'était une équipe soutenue. Mais voilà, rien n'est trop beau véritablement pour le maire qui s'est transformé en coach d'équipe de foot. Et pour nous, en tout cas, d'un point de vue ethnologique, eh ben, il est intéressant de savoir comment de vivre pleinement le fait de vivre sous Berlusconi. Voilà, donc je n'irai pas sur le... Je ne vais pas me convertir aujourd'hui en supporter, même si je pense qu'il serait...
Ça va très vite. Hein.
Ça va très très vite, oui. Voilà, j'aurais peut-être plus de facilité à le faire en supportant. Je ne sais pas, il paraît que l'équipe de la Duchère est étonnamment sympathique et gagne des matchs à un petit niveau. Oui, de temps en temps, voilà. Éventuellement, on pourrait lancer un mouvement là-dessus. En tout cas, je finirai cette chronique en disant que, effectivement, je n'aime pas le foot, mais il me semble que c'est malgré tout un immense signe de respect pour ce sport de dire que je ne soutiens vraiment pas l'Olympique lyonnais.
Nos appels ont été entendus. Martin Duret s'est levé. Martin Duret est venu. La chronique.
Piste en brouille, l'écoute.
Et les chroniques.
Berce mon cœur d'une langueur monotone.
Berce mon cœur d'une langueur monotone.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Et les chroniques aussi.
Oui, bonjour tout le monde. Donc je me suis levé. Je me suis levé en fait beaucoup plus tôt que certains pourraient le penser, mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Simplement c'est cette semaine pleine de rebondissements, pleine de surprises, nous mène parfois là où on ne voudrait pas. Et donc du coup je rebondis aujourd'hui une fois de plus sur une sensation très très étrange que j'ai vécue hier matin. J'étais tranquille, j'étais peinard, allongé sur mon plumard, lorsque mon radio-réveil s'est allumé, et je ne sais pas comment, mais je me suis entendu, moi. Moi, j'étais là couché sous ma couette, mais je m'entendais, moi, dans la radio. Et donc j'ai voulu vérifier pour être sûr, c'était assez bizarre. J'ai changé de fréquence pour voir, mais rien, j'étais toujours là, allongé dans mon lit, ça ne bougeait pas. Donc cette histoire m'a ramené des années en arrière. C'était en 2006, en novembre je crois. À l'époque, on était jeunes, on s'essayait à des petites expériences sans lendemain. Et deux potes à moi, maintenant ce sont des potagers, mais à l'époque c'était pas encore des légumes, avaient organisé une espèce de semaine durant laquelle il se passait deux, trois trucs sympas en ville. Entre autres, on s'essayait aux apprentis radiologues sur une petite radio périphérique encore peu connue. C'était RMC, je crois que ça voulait dire Radio Monte Canu, un truc dans ce genre-là. J'avais fait une petite rubrique donc, sur les méfaits de la schizophrénie. Vous savez, le fait de faire du ski avec des planches en frêne. Et je racontais comment je vivais cette expérience de dédoublement. J'en arrivais à me regarder comme deux ronds de flanc, l'air bovin, et à faire le choix ferme et définitif de retourner dans mon rêve plutôt que d'aller faire du ski. Donc j'en étais resté là, et j'avais commencé à parler des bienfaits de la plaine de l'Ouest, loin de l'Ouest lyonnais, où les bisons broutent tranquilles aux heures matinales et aux heures soirtinales, c'est-à-dire très tardives. Et les bisons broutent dans la plaine, et on avait deux cow-boys qui s'avançaient vers nous. Deux cow-boys. Le grand sec, c'était Riton le gazon. Riton le gazon, la terreur des champs de colza. Appelé ainsi pour ses origines horticoles. Et non pas pour son herbeux, en deux mots, hein, son herbeux. Mais donc il aurait été rouleur de meules dans une vie passée. Riton le gazon n'est jamais pris de court, il a toujours une autre solution, une issue de secours, une seconde voie. C'est le spécialiste du plan B. D'ailleurs, certaines légendes racontent que Riton le gazon aurait mis fin à sa première vie très monotone en disparaissant dans un feu de paille. Sa deuxième vie ne serait donc qu'un long plan B, et que cela expliquerait que son visage rayonne constamment de cet air pas que sous, mais ravi aussi. À côté de lui, le petit gros... Le petit gros, c'est Renaud Matopé. Renaud Matopé est le fils naturel du croisement entre une squaw bollywoodienne, navarro-bollywoodienne d'ailleurs, et un chef esquimau. Le résultat en fait quelque chose d'inuit. Renaud Matopé est ainsi nommé car il n'a qu'un vocabulaire très restreint. Seuls trois sons sortent de sa bouche, bis, tant et claque. Mais Renaud Matopé ne perd jamais son sang-froid. C'est son côté esquimau qui veut ça. Arrivé à bout d'argument, ce qui lui arrive, somme toute, assez rarement, Renaud Matopé dégaine son arme ultime, le tristement célèbre 357 Magnum chocolat noisette, et pan. D'où le fameux bistan claque, et pan. Autrefois, Renaud Matopé et Riton le gazon tenaient un relais postal dans le lointain Far West. Et ils étaient tranquilles, ils nourrissaient simplement les chevaux des diligences qui passaient avec des graines, des végétaux. Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où la modernité s'en est mêlée. Et la modernité, ça voulait dire pas seulement avoir... une machine à café pour se faire du café le matin chez soi, tranquille, ce qui fait que du coup les cafés ferment le matin. Mais ça voulait dire que le cheval de fer est arrivé. Avec le cheval de fer, son lot de stress, d'énervement. Et Renaud Matopé ne l'a pas supporté. Qu'on le klaxonne pour faire le plein, ça l'a rendu fou de rage. Il s'est dit, cette voiture, elle va pas repartir comme ça. Donc plutôt que de faire un plein ordinaire, il s'est dit « je vais faire quelque chose de super ». Il a bourré plein de choses plus ou moins catholiques, enfin, genre de choses qu'on met rarement, généralement, dans les réservoirs des voitures. Et forcément, ce qu'il espérait, c'est exécuter, mais peut-être au-delà de ses espérances. c'en était fini de leur vie tranquille dans leur petite station de relais postal. Renaud Matopé et Riton le Gazon ont dû partir en ville. Ils sont allés habiter à la ville. Là, ils se sentaient un petit peu exilés, c'était pas du tout leur univers. Et pour ne pas s'ennuyer trop, ils faisaient venir leurs copains. Des copains un peu bruyants. Et pourtant, ils s'amusaient bien, mais c'était pas du goût de tout le monde. La voisine, vous savez, la fameuse, celle qui habite en dessous avec son manche à balai, tapait constamment jusqu'au jour où Renaud Matopé s'exclama « Pan !» Ce qui voulait dire « Ouh, faut vite qu'on prenne nos clics et nos claques, parce que là, la voisine, elle va pas nous laisser continuer longtemps comme ça. » Alors, ils se sont dépêchés de se rassembler leurs affaires, et puis, non, c'était trop tard. La voisine poussait les murs. Riton le Gazon et Renaud Matopé ont disparu pour toujours.
Eh bien, merci beaucoup Martin Duret pour cette chronique, cette dernière chronique de la dernière émission de Bistan Brouille l'écoute sur Radio Canu. Voilà, donc la voisine pousse les murs, comme Martin Duret concluait sa chronique. La voisine pousse les murs se termine aussi aujourd'hui. Dernier spectacle de cette semaine culturelle organisée par l'association La Voisine. Et c'est ce soir au 6ème continent avec le bal à Bistan spécial Italie, initiation aux danses du sud de l'Italie, et puis d'ailleurs peut-être aussi vers 6-7h, 6ème continent, rue Saint-Michel, petite tapas et bal à Bistan comme d'hab, avec une couleur italienne en plus. Merci beaucoup donc pour votre écoute, et puis d'être venu nous rejoindre pendant cette semaine. Merci évidemment à Olivier Bertrand et au colonel Moutard, ainsi évidemment qu'au grand Martin Duret qui, voilà, au pied levé, nous a replanté dans un western. Merci à toute l'équipe de Radio Canu qui nous a accueillis sur ces ondes, sur le 102.2, où on reviendra parce qu'on se sent bien. Et puis tout de suite, ces visages d'Amérique latine qui va prendre le relais sur les ondes de Radio Canu. Je crois que c'est... Voilà, les animateurs sont arrivés, c'est...
Le Avec programme. La radio, on ne peut pas savoir.
Voilà, on ne peut pas tout savoir. Voilà, donc on vous laisse et à très bientôt, peut-être même à ce soir pour nous voir en direct, parce que Radio Bistan Brouille l'écoute est une des seules radios qu'on peut écouter le matin et voir les animateurs le soir.
En vrai,
en train de faire à manger ou de faire danser. Voilà. À très bientôt.
Ciao.
Bistan Brouille l'écoute.